Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les paris RMC 100% tennis, le tournoi de Cincinnati chez les hommes et chez les femmes pour évidemment parier aujourd'hui. Et on est avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Bon Eric, on va commencer directement ces paris RMC 100% tennis aujourd'hui avec le match entre Alexander Blox et Flavio Cobolli. Il y aura quelques Français, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On va commencer d'abord entre la rencontre entre le Belge et l'Italien. Blox est à 1,80, Cobolli est à 2,05. Blox avait battu Navone au tour précédent, Cobolli Kecmanovic en 3-7. C'est assez serré cette rencontre, comment tu la sens toi Eric?
Bah, c'est assez serré parce que Cobolli, j'ai l'impression qu'il a du mal à vivre l'après Roland Garros. Il le dit dans ses conférences de presse, il n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller à Turin, au Masters. Et ça lui bouffe le cerveau, et donc je pense qu'il ne veut pas le meilleur tenu de sa carrière hein, depuis Roland. Il est cinquième à la race, donc pour l'instant tout va bien, mais il sent que derrière ça va pousser. Hein. Il y a des mecs comme Rodard, Félix Auger-Aliassime, ou Arthur Fils qui veut lui piquer sa place. Et c'est vrai qu'il est moins à l'aise sur dur que sur terre, ça c'est clair. Donc que Blox soit favori, ça m'étonne finalement pas tant que ça. Mais le Belge, il commence à retrouver quand même la bonne carburation hein, après son malheureux accident à Roland-Garros. Je vais me dire c'est loin, mais bon, quand t'es blessé comme ça, t'as du mal à retrouver le rythme, mais là, ça va beaucoup mieux. Moi, je pense qu'on peut... Pour moi, ça serait une surprise ben, en termes de placement que Blox s'impose, mais... Finalement, non. Donc, je vais jouer le Belge, moi.
D'accord. 1,80. La cote est déjà très belle. Si jamais vous voyez Alexander Blox s'imposer en 2-7, c'est 2,60. En 3, c'est 3,70. C'est peut-être ce scénario qu'on pourrait envisager, Eric, parce que Flavio Cobolli, ce n'est pas non plus n'importe qui. Alors oui, ça arrive de perdre, mais peut-être pas en 2. Ce sera un match assez serré, quand même.
Ça peut être un match serré. Maintenant, tout va jouer, je pense, au physique, puisque... On le voit, les conditions à Cincy sont très très dures. Chaleur, humidité, il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment à la recherche de l'air ou de glace. On a vu qu'hier Arthur Hinderknecht a fait un petit malaise. J'ai vu Roublev aussi plonger la tête dans le truc de glace. C'est vraiment dans la tête. Hein. Faut vraiment être costaud dans la tête. J'ai envie de dire que Blox a peut-être plus de facilité à avoir des points gratuits avec son service. Donc ça peut peut-être l'aider.
Il l'a déjà battu, Alexander Blox. Hein. Flavio Cobolli, c'était à Monte Carlo en avril.
Ouais. Bah ouais, je me souviens même de ce match, c'était sur le cours des profs. C'est dur, hein, parce que tout peut se passer dans ce match. Ça me paraît très équilibré, mais je sais pas, j'ai l'impression que Blox est en train de retrouver un très très bon niveau de jeu.
Okay. Tu remets du coup une petite pièce sur Alexander Blox face à Flavio Cobolli. Si jamais vous ne voulez pas jouer le 2-0 ou le 2-1, je vous propose Blox avec par exemple plus de 21,5 jeux, on arrive à 2,40. Plus de 19,5 jeux, on arrive à 1,98. La cote est tout de même intéressante. On va rester chez les hommes à Cincinnati et là avec un match qui, sur le papier, et en tout cas au niveau des cotes proposées par les bookmakers, est un petit peu plus déséquilibré. Raphaël Rodard face à Alejandro Tabilo. 1,41 pour Rodard, 2,95 pour Tabilo. Là, il n'y a pas de surprise. Eric, Rodard va continuer sur la dynamique qu'il a depuis plusieurs mois maintenant.
Il faut se méfier. Au tour précédent, il a frôlé la catastrophe. Quoi, hein,
face à Chapovalov.
Bah oui, il était mené 5-1, il a sauvé des balles de match. On voit que l'enchaînement Canada-Cincy, c'est l'un des plus durs au monde, puisque bah, voilà, Shelton est tombé cette nuit, alors qu'il était en pleine bourre. Donc il y a un gros risque de saturation. Faut voir comment il a récupéré après son énorme match contre Chapovalov. Et puis le symbole de cette rencontre aussi, c'est que on vient d'avoir la composition de l'équipe d'Espagne pour jouer le Tour de Coupe Davis à 10 septembre au Chili. Et Rodard sera le leader de l'équipe d'Espagne, puisqu'il n'y aura pas Alcaraz. Donc là, on a une répétition avant l'heure du match de Coupe Davis qui jouera au Chili, dans des conditions, on imagine, très, très chaudes, avec un public
en feu.
Très près du cours, en feu. Et là, Rodard, il va falloir qu'il soit guerrier. Hein. Donc c'est vraiment un match qui est très intéressant, je trouve. Mais si Rodar...
Mais vu qu'on n'est pas encore au Chili, est-ce que Rodar part quand même avec une petite longueur d'avance sur Tabilo? Je rappelle quand même que Tabilo hier a battu Yann Lennart Struff en 2-7, je ne vais pas dire facilement, mais plutôt, allez, tranquillement.
Oui, mais quand tu vois le parcours de Rodar, tu te dis qu'à un moment, il joue beaucoup, hein. Il joue beaucoup et il y a eu des premiers signaux contre Chapovalov où il était à deux doigts de la rupture.
Ouais.
Tabilo a un beau jeu, hein. Tabilo a un très beau jeu, il fait un bel été.
Je
Après,
sens que tu vas me mener vers une petite surprise là.
non, mais si on joue à Washington en demi, c'était compliqué, hein, pour Rodar,
Ouais,
hein.
bien sûr, face
6-7,
à
6-4,
Nakashima.
6-4. Il est dur à bouger, le Tabilo. Il a la confiance, il est bien remonté au classement.
Rodar avait battu
Et...
Tabilo à Washington.
Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais.
Mais pardon.
En 3, ouais. Et ça avait été long. Ça avait été long à se
Ouais, c'est
dessiner.
ça.
Écoute, je vais quand même aller sur Rodar parce que
Ouais.
on va dire qu'il a eu. Il a eu très peu de temps pour s'habituer aux nouvelles conditions de jeu. Parce que vous allez me dire que c'est du ciment, mais. Tout le monde le sait, hein, les chiffres le prouvent. La surface à Montréal était assez lente et à Cincinnati, c'est plus du rapide. Donc ça change la donne, tu dois te réadapter. Shelton n'a pas su le faire. Rodar s'en est sorti un peu par miracle au tour précédent. Là, il a eu une journée pour peut-être parfaire les automatismes, retrouver des sensations sur cette surface qui n'est pas tout à fait la même. Donc je vais jouer Rodar, mais attention,
Ouais.
attention, ça peut être le même scénario que Washington avec un match en 3.
Tu vas jouer Rodar, mais en pointillé tout de même. 1,42.
Oui, c'est un match qui est dangereux, c'est un match qui est
Ouais.
dangereux, hein.
Ouais, on peut tout à fait le comprendre. Il y a un partout dans les confrontations directes, si jamais ça vous intéresse. Donc on a parlé de Washington, c'était il y a quelques, même pas quelques semaines, enfin une dizaine de jours maintenant, 2 semaines presque, où Rodar avait battu Tabilo avait battu Rodar à Indian Wells un petit peu plus tôt dans l'année,
Ouais.
en
Ah, mais
mars.
il est dangereux. Il est dangereux avec sa patte de gaucher. Il sait faire plein de choses. Il sert très bien. Maintenant, Rodar est dans une telle dynamique. Ouais, ça. Je lui donne un léger avantage.
Très bien.
Mais attention à la surchauffe. Ah, attention à la surchauffe. Ouais, pas qu'il se trompe d'objectif. Il y a l'USA qui arrive. On voit bien qu'il est en chasse du top 10, même s'il n'en parle pas trop. Mais il sent qu'il est tout près d'être top 10, ce qui serait, on a dit, assez stupéfiant parce que c'est un
Ouais.
garçon. Qui était même pas top 100, attends, je vérifie. Voilà, à Miami, il était 109, quoi, tu vois. Donc, ça a commencé à remonter. Il a intégré le top 100 après Marrakech, quoi. Non, après Miami, pardon. Parce qu'il y a Marrakech, il est 89. Donc, oui, s'il arrive à être top 10 au coup d'envoi de l'US Open, c'est absolument prodigieux. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du tennis. De passer du top 100 au top 10 aussi rapidement.
C'est vrai. Raphaël Rodard donc à 1,41, Raphaël Rodard en 2 à 1,98, en 3 à 3,25. J'ai envie de te proposer une cote, Eric. Alejandro Tabilo remporte au moins un set, 3,15.
Ah oui, 1-7-3-15.
Ouais. Alejandro
Ça paye
Tabilo
bien.
remporte au moins un set, c'est coté à 3,15.
Ça paye très bien, ça.
Ah oui.
Ah non, je trouve que ça se tente parce que, il a dû quand même finir son match contre Chapovalov dans un état de fatigue terrible. L'influx nerveux. Alors, il a eu un jour off, c'est vrai. Mais quand tu vois son activité depuis la fin juillet, il joue énormément. Il joue énormément.
Avec Raphaël Rodard qui s'impose peut-être à la fin en 2-7, ses côtés donc à 3-25. Mais tu vois tout de même la victoire de Raphaël Rodard en pointillé tout de même avec quelques précautions face à Alejandro Tabilo. Mais si jamais tu devais mettre voilà, un joueur peut-être au-dessus de l'autre, ce serait Raphaël Rodard. On va passer à un match qui concerne un Français. Jiří Lehečka face à Arthur Fils. C'est Arthur qui est favori à 1,62. Lehečka est à 2,35. Lehečka a battu Berrettini en 3 au tour précédent. Arthur a battu Hanfmann en 2 au tour précédent. Dans les confrontations directes, c'est Arthur Fils qui mène face à Lehečka 3-2. Est-ce que là, il va creuser encore l'écart ou alors on va arriver à 3-3 dans les confrontations directes? Arthur est quand même légèrement favori. Ce sera pas non plus un match facile.
Non, c'est un match qui est. C'est un gros morceau, hein, tout de suite, on le voit bien. Il a beau être tête de série dans ce Masters 1000, tout de suite, du troisième tour, il tombe sur du lourd, quoi. Bon, Maintenant, il ne part pas en terrain inconnu. Il connaît parfaitement les SK. Ils se sont joués beaucoup. Il a l'air plutôt bien. Il le dit en déclaration. Il est en train de retrouver son rythme. C'est vrai qu'à Wimbledon, il y a eu un très bon premier match. Le deuxième était beaucoup moins convaincant contre Berrettini. Il y a eu des bons passages aux États-Unis, enfin au Canada et aux États-Unis. Maintenant, il faut capitaliser, quoi. Il faut marquer des points parce que lui aussi, il a un objectif comme Kobolis, c'est d'aller au Masters. Et on n'est pas très loin. Le dernier match, c'était Miami, hein, c'est ça? Non, Madrid. Ah oui, il le bat à Madrid. Donc, il a pris sa revanche sur Miami. Ouais, donc Miami, il avait pris 2 et 2, Arthur, mais c'était au lendemain de son combat contre Paul.
Exactement.
En revanche, sur terre, il l'avait nettoyé à
À
Madrid, à
Madrid.
quelle altitude? Pas simple, pas simple, pas simple, pas simple. Et il s'était joué aussi. Ah oui, à Doha. Oui, il avait battu à
Il joue à
Doha. Ah oui, c'est la
Doha, à
quatrième
Toronto.
fois qu'il se joue.
Et la première, c'est en Coupe Davis en septembre 2024. Est-ce qu'on la compte vraiment celle-là ou pas? Sinon, c'est Toronto, Doha, Miami et la dernière à Madrid. 3 fois cette année.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que le match de Coupe Davis, c'était un match pour du beurre, puisque la France était déjà éliminée. Il n'avait pas très envie de le jouer. Et je crois que c'est Pierre Garber dans le vestiaire qui a dit non, Arthur Soutiai. Soutiai, il faut que tu ouvres ton palmarès en équipe de France. Et il a gagné en 3-7
Il a
contre
gagné en
l'ESK.
3-7 et ça
Non.
avait été pas simple quand même.
Ouais, mais c'était un match pas simple parce que c'était un match pour du beurre, quoi.
Oui,
Il lui a
bien
rapporté
sûr.
0 points, mais il avait débloqué son compteur. Et d'ailleurs, on va surveiller à 14h l'annonce de Paul-Henri Mathieu, puisque la Fédération française va communiquer l'équipe qui jouera au Canada, donc en Coupe Davis. Et est-ce que Arthur Fils sera du voyage? Ça, c'est une vraie question. On l'espère, parce que si on n'a pas Arthur Fils pour aller jouer Félix Auger-Aliassime, c'est embêtant. Écoute, pour revenir à nos moutons, Lechka, il a procédé à des changements, puisqu'on sait qu'il a récupéré l'ancien coach de Félix Auger-Aliassime. Moi, j'ai envie de faire confiance à Arthur, j'ai l'impression qu'il est bien. Est-ce que la surface plus rapide à Cincy lui convient mieux? Peut-être, peut-être. Mais Lechka, c'est un client, quoi. C'est un mec qui est quand même 14, hein. Faut pas l'oublier. Allons sur Arthur en 3. Allez.
Allez, Arthur en 3. Donc Arthur Fils tout seul déjà, c'est un 1,62. Arthur en 3, on arrive à une très belle cote de 3,45. Juste pour te dire, Eric aussi, si jamais Arthur Fils venait à l'emporter, le prochain match qu'il aurait à jouer, donc là on est en 16e de finale, le 8e de finale, ce serait un morceau aussi, ce serait soit face à Alex de Minaur ou Arthur Ferry. Donc.
Ouais, enfin bon, il y a pire à prendre, hein.
Oui, il y a pire, il y a mieux aussi. Même si ce match-là est quand même peut-être un peu plus important, celui face à Jiří Léčka. Et tu vois donc Arthur Fils s'imposer, peut-être péniblement, c'est pour ça que tu vois la cote d'Arthur Fils en 3 qui est à 3,45. On va parler maintenant d'autres françaises. On va partir du côté des filles avec la rencontre entre Diane Paris et Loïs Boisson. Alors là, c'est beaucoup plus équilibré au niveau des cotes. 2 pour Paris, 1,84 pour Boisson. Comment on voit cette rencontre, Eric? Parce que Loïs Boisson, est-ce que ça va déjà un petit peu mieux en ce moment après une année qui a été, allez, cauchemardesque?
Là, elle a très peu joué, effectivement, accablée par les blessures. Donc là, elle retrouve quand même pas mal de. Elle retrouve du sourire, c'est ça qui est important. Elle retrouve l'envie de jouer, elle regagne des matchs, même si, bon, évidemment, on peut toujours observer que Bencic, bon, bah, elle a abandonné, mais bon, voilà,
Exactement.
oui, c'était devant au score. C'est pas de sa faute si la Suissesse n'était pas en état de jouer. Hein. Moi, je. Alors, j'ai pas trop vu ces matchs, parce que c'était pas bon, mais. J'ai vu des passages où quand même tu sens que le coup droit, ça envoie bien. C'est assez intéressant. Maintenant, l'opposition avec Diane est intéressante, hein, tactiquement parlant. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que Diane aime bien manœuvrer son adversaire, mais si Louis est en pleine bourre physiquement, bah, on connaît ses qualités. Elle est très très dure à déborder. Elle a cette faculté à remettre en slide des deux côtés, donc ça fait prolonger les échanges. Diane Paris, c'est pas encore la grande confiance. Elle a resté sur une une défaite un peu traumatisante à Wimbledon contre Kalinskaya, où il avait vraiment le match en main, et puis ça lui avait échappé vraiment dans les derniers instants, dans le Super Tiebreak. Moi, je vois bien un match en 3,
Ah,
déjà.
est-ce qu'on donne quand même une vainqueur ou alors juste un match en 3? Juste le match en 3 déjà, sachez que la cote, elle est à 2,10. Paris en 3, 4,20. Loïs Boisson en 3, 4. Si jamais on ne veut pas se mouiller, l'une des deux en 3, c'est coté à 2,10.
Oui, puis c'est un match qui joue à 17h, donc en plein cagnard. Donc là, le physique va être très important. Voilà, donc bon, on n'est pas sur place, hein, on ne sait pas comment elles sont les deux physiquement, mais Diane a fait un bon renversement contre Mertens, qui est quand même pas facile à manœuvrer. Donc ça, c'est un indice fort que ça va bien. Elle a plein d'armes, tactiquement parlant, mais Loïs aussi, donc.
Ah,
Qui serait d'ailleurs
on sait pas trop où aller, hein, du
Non,
coup,
on ne sait
Eric,
pas
entre les deux.
trop. Bon, Louis, on ne sait pas trop où on en est, mais bon, je sais pas, je
Je
vois
vais
un match en
retenir
trois, mais
retenir
bon.
déjà le match en 3, ça c'est sûr, à 2,10. Mais là, maintenant, la question, elle est toute simple, c'est si jamais la pièce, elle doit tomber, pardon, d'un côté ou de l'autre, elle tombe de quel côté?
Voilà, bah c'est la grande question. Je n'ai pas vraiment de réponse, je vous l'avoue. Il y a plus de certitudes, plus de matchs en 2026 chez Diane Paris, mais on sait que Loïs, il suffit de peu de choses pour retrouver ses sensations. Et là, mine de rien, elle regagne des matchs. Une victoire en qualif à Toronto, Kruger en deux, Benchik, c'est pas mal, quoi.
Allez, donc on va
C'est
partir,
pas mal.
on va faire en sorte que la pièce tourne du côté de Loïs Boisson, rien que pour l'argument, tu l'as dit, physique qui revient petit à petit chez elle et avec un horaire de match où c'est pas forcément le plus simple, peut-être que le physique comptera. Donc on va allez, partir sur Loïs Boisson en 51% et 49% pour Diane Paris.
Voilà, tu m'as forcé la main un peu, mais bon,
Non, 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 si jamais tu as envie de changer, si jamais tu as envie de changer
Non, mais
ta
franchement, j'en
réponse.
sais rien. Franchement, j'en sais rien, là. J'ai pas la boule de cristal, sinon ça se saurait. Et bon, on n'est pas sur place, on sait pas comment ils sont physiquement. Mais en tout cas, c'est un beau match. C'est un beau match à regarder, quoi. À 17h, je serai sur la plage en train de regarder mon smartphone.
Très bien. Et on verra donc de quel côté la pièce est tombée entre Loïs Boisson et Diane Paris. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient évidemment parier, eh bien, Eric Salio vous propose le 3-7 sans donner de vainqueur entre Diane Paris et Loïs Boisson. Pour les autres rencontres chez les hommes, Eric, tu vois la victoire d'Arthur Fils, de Raphaël Rodard et d'Alexander Blocks. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Eric. Bon match entre Diane Paris et Loïs Boisson cet après-midi. Et puis, on se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous.
Merci à vous.